Ce magazine que vous allez suivre est une production de la Panafsi avec le soutien du gouvernement basque, du Forum Rural Mondial et de Inades Formation. Vie et avis du monde paysan. Vie et avis du monde paysan. Votre magazine d'information et de sensibilisation sur l'agriculture familiale.
L'acte uniforme OADA et viabilité des sociétés coopératives, regard de la Panafsi, c'est le thème de ce troisième numéro de votre magazine Vie et avis du monde paysan. Et pour en parler, je reçois trois invités. Avec moi, ici, dans ce studio, Monsieur Kwame Alphonse, il est chargé de projet système alimentaire à Inades Formation. Madame Yapo Pulcheri, présidente de la Panafsi dans le sud Comoé. Elle est également présidente de la société coopérative d'aide à la production et à la commercialisation des produits agricoles de Côte d'Ivoire. Notre troisième invité, c'est Monsieur Conan Hervé. Il est président du conseil d'administration de la société coopérative agro-industrielle de Boisfolé-Maraoué et secrétaire général de la Panafsi dans la Maraoué. Nous aurons aussi l'intervention de Monsieur Anatole Kouadio, sous-directeur des grandes filières à la Direction générale des impôts. Bonjour à toutes et à tous, je suis Wenceslas Yoboué. Merci de prolonger l'écoute.
Vie et avis.
Vie et avis.
Du monde paysan.
Bonjour messieurs, dames, et merci d'avoir accepté notre invitation. Je commence déjà par la dame, madame Yapo, bonjour.
Bonjour monsieur.
Monsieur Alphonse Kwame.
Bonjour.
Et monsieur Conan Hervé.
Bonjour monsieur.
Alors, on revient avec vous tout à l'heure, avant de vous redonner la parole dans ce studio pour que nous puissions échanger sur notre sujet. Voici une explication de l'acte uniforme OADA avec monsieur Anatole Kouadio de la Direction générale des impôts.
L'OADA, c'est l'organisation de l'harmonisation en Afrique des droits des affaires. C'est-à-dire que les pays africains au nombre de 17 ont convenu de mettre ensemble et d'harmoniser la façon dont ils vont organiser leur fiscalité et leur monde coopératif. C'est un acte communautaire, c'est-à-dire c'est un ensemble de pays qui sont mis ensemble pour faire la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous devez créer une coopérative en Côte d'Ivoire, ce sont les mêmes formalités que vous devez remplir si vous devez créer une coopérative au Bénin, au Burkina et puis au Sénégal. Cet acte uniforme est venu en remplacement de la loi de 97, dite loi coopérative. Elle a introduit donc une organisation particulière et un fonctionnement des coopératives. Précédemment, par rapport à la loi de 97, on parlait de coopératives. Mais à travers l'acte uniforme OADA, on parle de société coopérative. Ça veut dire que désormais, ce qu'on appelait précédemment coopérative, ce n'est plus des coopératives toutes simples, mais ce sont des sociétés. Juridiquement, leur organisation et leur fonctionnement est similaire à ce qu'on appelle une société commerciale. Maintenant, la nature de l'activité de la coopérative va déterminer tous les autres aspects de fonctionnement de ces nouvelles sociétés coopératives.
C'était l'acte uniforme OADA expliqué par monsieur Anatole Kouadio de la Direction générale des impôts. Suivons à présent un autre point d'information sur le dit acte avec Bénédicte Wabo.
L'acte uniforme OADA relatif aux sociétés coopératives a été adopté le 15 décembre 2010 à Lomé, au Togo. Il est entré en vigueur le 15 mai 2011. 17 pays, dont la Côte d'Ivoire, sont signataires de ce acte.
De retour au studio pour échanger maintenant avec nos invités du jour après ces quelques informations sur l'acte uniforme OADA. Je me tourne vers monsieur Alphonse Kwame, chargé de projet système alimentaire à Inades Formation. Expliquez-nous monsieur la nécessité de l'acte uniforme OADA relatif aux droits des sociétés coopératives.
Ok, comme l'a si bien dit l'interlocuteur de la Direction générale des impôts, en fait, il faut, pour combler la nécessité, il faut l'élargir à l'ensemble des actes uniformes. Donc, ces actes, en fait, visent essentiellement à faciliter les échanges et les investissements et à garantir la sécurité juridique et judiciaire des activités des entreprises, y compris les sociétés coopératives dans le cas d'espèces. dans le but de créer un vaste marché intégré.
Et est-ce que vous pouvez nous parler des objectifs justement de cet acte ?
Effectivement, pour ce qui concerne l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés coopératives, cet acte donc énonce un certain nombre de différentes dispositions ayant pour but d'unifier le statut et le fonctionnement des coopératives. Oui. Union et fédération de sociétés coopératives, agricoles ou non, c'est important, c'est pas seulement dans le domaine agricole, existantes ou en voie de création dans les 17 États membres.
Et est-ce qu'on peut savoir leur capacité à se conformer à l'acte uniforme relatif aux sociétés coopératives?
Effectivement, c'est une nouvelle loi. Évidemment, en Côte d'Ivoire, il y avait, comme ça a été déjà dit, il y avait la loi de 97. Donc, une nouvelle loi, il s'agit d'analyser la capacité des coopératives qui existaient à se conformer à ce nouvel acte uniforme. Et donc, une étude a été commanditée par INADES Formation. Il ressort de cette étude un certain nombre d'éléments que je vais essayer de relater. D'abord, par rapport à la procédure et au coût de matriculation des sociétés coopératives. Donc, il faut savoir que dans l'ancienne loi coopérative, il y avait ce qu'on appelait les études de faisabilité. Donc, il y avait le procédé d'agrément à l'époque, mettons pas d'immatriculation. Donc, cette procédure a été très, très simplifiée. Ça, c'est ce qu'il faut noter. Également, les coûts également réduits. Donc, ça, c'est en termes de capacité. C'est-à-dire que c'est au niveau de dispositif d'agrément, de la procédure, c'est vraiment simplifié et les coûts réduits. L'autre élément qu'il faut voir, c'est l'appropriation de la loi par les coopératives. Est-ce que les coopératives ou bien les coopérateurs, les ouvriers paysans connaissent la loi? Et là, en ce moment, à ce niveau, il faut noter qu'il y a quand même des difficultés. Donc, les acteurs à la base sont peu informés sur les dispositions de l'acte uniforme OADA, notamment sur le choix de la catégorie de coopérative. Vous savez qu'il y a les coopératives simplifiées, il y a les coopératives avec le conseil d'administration, sur la forme de déclaration civile ou commerciale, ça c'est important, et aussi sur les exigences fiscales associées. L'autre élément en termes de capacité, c'est le niveau des ressources humaines. Vous savez que l'acte uniforme, c'est que pour les sociétés coopératives avec conseil d'administration, il est exigé, pour ne pas il est recommandé, d'avoir du personnel qualifié. Ça également, on note que quand même, il reste encore des décisions assez difficiles. Pour la plupart des coopératives, donc de répondre, de respecter cette exigence. Et c'est pour la majorité, ces coopératives continuent donc d'utiliser des bénévoles ou des agents non qualifiés. Le dernier aspect qu'on pourrait voir en termes de capacité à se conformer, c'est au niveau de la fiscalité. Les sociétés coopératives sont peu informées sur les dispositions fiscales, les régimes fiscaux, les impositions ainsi que les exonérations.
Bien, vous avez parlé d'appropriation de la loi par les coopératives et tout à l'heure, vous parlez de fiscalité. Alors, ça veut dire qu'il y a forcément des coopératives qui sont conformes à cette disposition. Est-ce qu'on peut avoir le nombre exactement depuis l'entrée en vigueur qui date de mai 2011.
En Côte d'Ivoire, le démarrage de l'immatriculation a commencé le 15 mai 2013, en respectant le délai de 2 ans qui avait été donné. Donc, au démarrage, il y avait au total la coopérative donc agréée sur l'ancienne coopérative. Il y avait 3747 coopératives agricoles selon les statistiques du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Et toujours selon le répertoire des sociétés coopératives édition 2017 du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, nous avions donc dans ce répertoire en fin 2017 3867 sociétés coopératives immatriculées au OADA.
On espère que beaucoup d'autres coopératives pourront se conformer à cet acte pour que le secteur puisse aller de l'avant. Merci à vous, Monsieur Alphonse Kwame, pour cette intervention. Chers auditeurs, si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous êtes à l'écoute du troisième numéro de Vie et Avis du Monde Paysan, un magazine d'information et de sensibilisation sur l'agriculture familiale. Et je vous invite à faire un tour à la direction générale des impôts pour connaître les dispositions fiscales en vigueur pour les sociétés coopératives en Côte d'Ivoire. Et c'est avec le directeur des grandes filières de la Direction générale des impôts, M. Anatole Kwadio, interrogé par votre serviteur.
Il existe plusieurs sociétés coopératives dans le monde agricole. Lorsque des acteurs, des personnes qui se mettent ensemble, chacune à sa plantation, mais ils mettent leur production ensemble et que leurs produits-là, ils s'en vont vendre chez l'exportateur ou bien chez l'usinier, ils n'ont pas une société qui produit des bénéfices, mais ils se sont juste mis ensemble pour pouvoir s'organiser efficacement et produire. On appelle ça une société coopérative de production. Si c'est le cas, alors cette société coopérative de production ne paye pas les impôts que toutes les sociétés commerciales payent, parce qu'elle ne réalise pas de bénéfices. Mais si cette société coopérative, parce qu'elle est importante, elle a un comptable, elle a un gérant, elle a une secrétaire qui travaille pour la société coopérative et ils reçoivent un salaire. Ceux-là, leur salaire-là, on fait une ponction là-dessus qu'on reverse pour leur compte à l'État. On appelle ça les impôts sur le traitement et salaire. Donc, dans ce cas précis, une société coopérative doit payer cet impôt-là. Mais elle ne paye pas l'impôt sur le bénéfice parce qu'elle ne réalise pas de bénéfice. Mais si elle s'apparente à une société coopérative qui fait une activité commerciale, par exemple, il y a des coopératives qui font de l'exportation de café cacao. Mais l'exportation, c'est une activité commerciale. C'est des gros sous, c'est des millions. Donc une société coopérative qui exporte des produits agricoles, qu'on appelle le COPEX, elle se comporte comme une société commerciale. Elle paye tous les impôts qu'une société commerciale normale doit payer. Lorsque l'État prend une disposition pour dire, bon, pour telle ou telle raison, telle structure ne paye pas tel impôt, ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas déclarer cet impôt. Il y a ce qu'on appelle l'obligation déclarative et puis l'obligation de paiement. L'État te dit, pour favoriser l'agriculture, il faut que les agriculteurs ne payent pas tel impôt. Mais ça ne veut pas dire que l'agriculteur, là, à travers la coopérative, ne doit pas déclarer. Vous déclarez ce que vous devez payer si on devait vous permettre de payer. Mais si vous ne payez pas, il faut toujours déclarer. Donc, ça aussi, ce n'est pas bien sûr des acteurs du monde agricole. Parce qu'ils ne doivent pas payer un tel impôt, ils disent non, ils ne doivent pas déclarer. Non, ce n'est pas la même chose. Parce que l'État tient des statistiques. Il faut que la loi que l'État a prise pour favoriser tel secteur, il faut que l'État en mesure le coût. Et pour mesurer le coût là, il faut que chacun fasse la déclaration de ce qu'il devait payer s'il devait être autorisé à payer. Même s'il ne paye pas, il déclare pour qu'on puisse évaluer combien ça coûtait à l'État d'exonérer d'impôts tel ou tel secteur d'activité.
C'était M. Anatole Kouadio des impôts. Je me tourne maintenant vers les deux responsables des sociétés coopératives présents dans ce studio. Je précise que leurs organisations sont déjà conformes à l'acte uniforme OADA relatif aux sociétés coopératives. Madame Yapo, vous êtes la présidente de la société coopérative d'aide à la production et à la commercialisation des produits agricoles de Côte d'Ivoire. On a écouté l'élément tout à l'heure, l'intervention avec le sous-directeur des grandes filières de la Direction générale des impôts. Il y a eu certainement des avantages dedans. Et parlant toujours d'avantages, est-ce que depuis que votre organisation s'est conformée à l'acte uniforme, qu'est-ce que ça vous a apporté?
Depuis que nous avons pris l'immatriculation, voilà, nous avons aujourd'hui... la possibilité, sinon tous les jours même qu'il y a des réunions au niveau étatique, sinon ministère, voilà, la COPACASI est conviée et elle a même la prise de décision. La COPACASI aujourd'hui est point focal Chambre nationale d'agriculture parce qu'elle est légalement constituée, elle répond vraiment aux normes selon les droits l'acte OADA. Du coup, nous avons de la valeur et aujourd'hui, la COPACASI a cette possibilité d'effectuer beaucoup de voyages soutenue même par le ministère de l'Agriculture, parce qu'elle est devenue un modèle, un exemple. Voilà, donc vraiment beaucoup d'admiration, de la considération.
En un mot, ça vous rend crédible.
Ça nous rend très crédible.
Ça vous ouvre les portes également. Monsieur Kona Hervé, vous êtes PCA de la Société coopérative agro-industrielle de Boisflay-Mahaoué. Est-ce que, parlant justement des avantages, lorsque vous vous êtes conformé à cet acte, qu'est-ce que ça vous a donné?
Merci, M. Yeboué. Et nous remercions d'ailleurs les 17 pays, parce que par le passé, nous avons assez de difficultés. Par le passé, en ce qui concernait la loi de 97, les sociétés coopératives n'étaient pas quand même bien vues sur le plan international. Mais aujourd'hui, avec la loi OADA, particulièrement ma société coopérative, on a eu des contrats un peu à l'extérieur. On a eu à signer des conventions avec plusieurs entités au niveau de l'extérieur. Et vraiment, je suis très heureux que cette loi soit est venue. D'abord, au niveau de la loi, nous avons tiré beaucoup de profit dans la mesure où nous contribuons. C'est-à-dire, quand je parle de contribution, nous contribuons à payer nos impôts. Mm-hmm. Voilà, ce qui n'est pas connu de toute coopérative.
Et ça aide à construire les routes.
Les routes, les hôpitaux et autres. C'est vrai, la contribution au niveau des sociétés coopératives en termes de fiscalité n'est pas tout à fait énorme, comme on le dit, mais ça nous a permis quand même d'avoir beaucoup de choses, beaucoup de choses. Nous avons bénéficié beaucoup de choses en termes de coopératives.
Pourtant, il y a une panoplie de coopératives qui ne se sont pas conformées à cet acte. Alors, j'aimerais savoir, il y a quoi comme difficulté à justement se conformer à cet acte?
Les difficultés, elles sont énormes. D'abord, il y a la question de visa fiscal. Par le passé, nos différents bilans ne sont pas certifiés par un expert comptable. Mais aujourd'hui, on nous demande de valider notre bilan interne, d'ailleurs, par un expert comptable.
Et c'est coûteux.
Très coûteux. Et malgré même qu'il y a eu des réductions, parce que par le passé, je prends le cas de l'année passée, les bilans, la certification des bilans coûtait à hauteur de 500 000. À hauteur de 500 000, ce qui a fait qu'il y a beaucoup de coopératives, mais qui n'ont pas pu certifier leur bilan. Et les experts comptables se sont réunis, ils ont trouvé que bon, le coût était exorbitant. Ils ont réduit. Mais malgré que c'est réduit, aujourd'hui, on n'arrive même pas à certifier nos différents bilans par les experts comptables. Donc, les difficultés au niveau des bilans sont tellement... On a des difficultés à ce niveau.
Quoi d'autre?
Il y a aussi le cas des exonérations sur les impôts, bénéfices commerciaux, ce qu'on appelle communément IBIC. Là encore, on nous demande que chaque année, on fasse la demande. Ce qui n'est pas normal parce que de plein droit, les coopératives ont besoin de ça, de plein droit. Mais ici, on nous demande chaque année, si tu ne fais pas de demande, automatiquement, on te demande de payer. Ce n'est pas normal. Et il y a aussi la question des impôts, la clarification des factures. Il faut qu'on nous clarifie la facture, la facturation des paiements. Pourquoi est-ce qu'on impose le paiement des impôts à telle société coopérative, ainsi de suite? Il faut qu'on nous clarifie. Pourquoi est-ce qu'on paye? Si c'est bien défini, bien détaillé, que la société coopérative est en train de payer, déjà à la base, déjà nous savons pourquoi est-ce que nous sommes en train de payer. Donc, il y a assez de difficultés. Voilà. Mais ici, on a réuni seulement que trois. Sinon, il y en a plein.
Les trois difficultés majeures.
Voilà.
OK. Merci, Monsieur Conan. On va venir à Madame Yapopul Chéri.
Les difficultés sont véritablement énormes, surtout au niveau des impôts. Quand tu vas pour faire une déclaration, à partir du moment où tu annonces que c'est une société coopérative, sans même peut-être rentrer dans les détails, les charges, enfin les taxes même qu'on vous colle, effraient déjà. Moi, je prends le cas sur ma coopérative. Quand nous sommes partis pour la déclaration, on nous a demandé de faire la déclaration fiscale, sans même nous demander savoir si c'est la forme simplifiée ou bien avec conseil d'administration. Bon, on a disé que nous payons timbre à hauteur de 45 000 francs. Même si vous prenez d'autres documents aujourd'hui, vous allez voir partout, on a mis des timbres partout. Et c'est après ça, quand nous sommes allés au niveau de la justice pour le registre de commerce, on nous a dit non, mais tout ça là, c'est pas important, que c'est trop. Donc, il y a de l'abus au fait. Il y a de l'abus.
Et nous sommes pratiquement dans la dernière partie de ce magazine d'information et de sensibilisation sur l'agriculture familiale. C'est le moment pour nous de parler des actions que mène l'État à travers le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural pour accompagner les organisations du secteur agricole dans leur professionnalisation. Et je me tourne encore vers monsieur Kwame Alphonse, qui va nous instruire là-dessus.
Ce que je peux dire au regard des résultats de l'étude qui a été menée, que naturellement, il y a les projets spécifiques qui sont menés par le ministère sur le terrain. les projets d'accompagnement des OPA. Il y a également les actions de proximité des structures décentralisées du ministère qui, au quotidien, servent de base d'information pour les coopérations sur le terrain. Mais de façon spécifique, sur la question de l'OADA, je peux dire clairement qu'il n'y a pas un dispositif de suivi post-immatriculation. Et ça, je pense que c'est clair. Mais c'est une préoccupation pour le ministère, donc qui est en train de travailler donc sur la mise en place d'un logiciel de suivi, d'évaluation et de contrôle des sociétés coopératives, qu'on appelle Logiscope. Et nous espérons, nous pensons que ce logiciel pourrait permettre d'avoir un regard sur les sociétés coopératives qui sont immatriculées.
Et quels sont les impacts de l'acte uniforme sur ces sociétés coopératives?
À ce stade de la mise en œuvre de l'acte uniforme, évidemment, on peut relever un certain nombre d'impacts qui ressortent au regard des constats sur le terrain, ce genre de choses. La première chose, c'est qu'avec l'immatriculation simplifiée, il y a quand même une prolifération de sociétés coopératives, parce qu'il n'y a plus trop, c'est pas contraignant. Voilà, donc beaucoup de coopératives se créent sans que ces coopératives soient véritablement viables. L'autre élément, mais plutôt positif, c'est l'amélioration de la gouvernance, la gestion et l'administration des sociétés coopératives. L'autre élément, c'est au niveau du membership, c'est-à-dire les membres. Donc il y a eu un assainissement des effectifs des coopératives. Parce qu'avant, les coopératives proclamaient des milliers de membres. Mais aujourd'hui, avec l'acte uniforme, les membres sont ceux qui ont payé leur part sociale. Et donc, évidemment, les effets sont plus assainis. Effectivement, il y a certaines coopératives qui ont augmenté d'effets parce qu'il y a la confiance. Il y a une transparence dans la gestion qui fait que la confiance est établie. Donc, il y a de nouveaux membres qui viennent adhérer. Il y a cet aspect qu'il faut voir aussi. Au niveau des capacités économiques et financières, évidemment, là aussi, je crois que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les deux responsables de coopératives. Il y a une amélioration donc dans les performances économiques et financières de certaines coopératives. Voilà. Donc il y a la crédibilité, ouais, non, parce qu'il y a la transparence, il y a les questions de comptabilité avec l'intervention des experts comptables, la question de visa fiscal, tout ça donc donne plus de crédibilité aux sociétés coopératives. Le dernier point que je pourrais soulever, c'est donc les relations. L'évolution des relations entre les sociétés coopératives et leurs membres et les coopérateurs. À ce niveau, il faut noter qu'avec l'acte OADA, on a noté qu'il y a une baisse de l'esprit coopératif. Parce que les paysans pensent que c'est des sociétés, donc à ces sociétés de rechercher des financements pour payer leur production. Donc l'esprit coopératif où on va faire des dépôts-ventes pratiquement en train de disparaître. L'autre élément que nous pouvons soulever, c'est la question des ristournes. Vous savez, quand on est membre d'une coopérative, on a ça de temps en temps des ristournes. Ça aussi, ça reste véritablement un défi. Un défi, naturellement, c'est lié donc aux performances des coopératives.
Merci à vous de nous avoir assez nourris sur la question des impacts de l'acte uniforme OADA. Nous sommes à la fin de notre émission, mais avant de conclure, vous allez nous dire ce que la PANAFSI propose justement pour rendre les sociétés coopératives plus professionnelles.
Merci, je pense qu'il y a un travail qui a été fait en termes de sensibilisation, mais qu'il faut poursuivre. Il est ressorti clairement que les acteurs ne sont pas très informés à la base, donc il faut poursuivre des programmes de sensibilisation, de formation sur la mise en œuvre de l'acte uniforme. L'autre élément que la PANAFSI souhaite, c'est que dans la conception du logiciel dont j'ai parlé, que les acteurs soient associés pour que son utilisation future soit plus aisée. L'autre élément important, c'est de procéder à travers un programme à l'évaluation des performances des coopératives qui sont immatriculées. Parce qu'en fait, sur le terrain, on se rend compte qu'il y a des coopératives qui sont au niveau conseil d'administration, mais en réalité, qui ne sont pas à ce niveau. Donc, il faut faire peut-être une évaluation de performance pour essayer de reclasser, si possible, ces coopératives qui sont, certaines sont véritablement en difficulté, pour ce qu'on voit sur le terrain. Maintenant, la dernière proposition, c'est au niveau de la fiscalité. Essayez donc, avec le service des impôts, de clarifier les dispositions fiscales pour que les acteurs puissent comprendre réellement et aussi essayer de faciliter, c'est-à-dire que sensibiliser les acteurs qui ont peur des impôts. Essayer d'enlever cette peur, clarifier donc son dispositif et clarifier aussi la facturation aussi. Parce que ça, c'est ressorti. Ce que les coopératives doivent payer, ça doit être clarifié. Les factures doivent être clarifiées. Et ça correspond à quoi exactement?
Vie et avis.
Vie et avis.
Du monde paysan.
C'est sur ces propositions de la PANAFCI visant à professionnaliser davantage le secteur agricole ivoirien que nous fermons les portes de ce troisième numéro de votre magazine Vie et Avis du Monde Paysan. À la semaine prochaine pour le quatrième numéro dédié à la sécurisation foncière en Côte d'Ivoire. Merci à vous, chers intervenants du jour. Monsieur Kwame Alphonse, il est chargé de projet système alimentaire à INADES Formation. Madame Yapo Pulcheri, présidente de la PANAFCI dans le sud Comoé et également présidente de la société coopérative d'aide à la production et à la commercialisation des produits agricoles de Côte d'Ivoire, monsieur Kona Hervé, président du conseil d'administration de la société coopérative agro-industrielle de Boisflay, Maraoué et secrétaire général de la PANAFCI dans la Maraoué. Sans oublier monsieur Anatole Kouadio, sous-directeur des grandes filières à la direction générale des impôts. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute et à très bientôt.
Vie et avis du monde paysan. Vie et avis du monde paysan. Votre magazine d'information et de sensibilisation sur l'agriculture familiale. Ce magazine que vous venez de suivre est une production de la PANAFCI avec le soutien du gouvernement basque, du Forum Rural Mondial et de INADES Formation.